RFI.
Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bonsoir et merci d'être avec nous. Le foot est roi ce soir dans Mondial Sport. En France d'abord, où Paris a fait exploser l'Olympique Lyonnais avec un triplé, un quadruplé même de Kylian Mbappé. En Angleterre, où le choc Liverpool-Manchester City a accouché d'une souris avec un pénalty de Mahrez dans les nuages. En Espagne, où l'Atlético Madrid et ses supporters rêvent d'un ballon d'or pour Antoine Griezmann. Au Maroc, où René Girard démarre une nouvelle aventure à la tête du Wydad Casablanca. Et en Côte d'Ivoire, où Bonaventure Kalou se lance en politique. Au Sénégal, enfin, on rêve des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. Décision demain à Buenos Aires. Mais pour une ouverture de Mondial Sport, rien de tel qu'un match de clôture, surtout quand ce match est l'affiche de la 9e journée du championnat de France de Ligue 1. Un PSG-OL qui vient de se refermer sur la large victoire des Parisiens au Parc des Princes, 5-0. Bonsoir Christophe Diremzian.
Bonsoir Eric.
5-0 pour Paris et Kylian Mbappé qui s'offre un quadruplé en deuxième mi-temps. Lyon n'a rien pu faire pour arrêter les Parisiens.
Ah non, véritablement la déferlante, le tourbillon rayé de mention inutile ce soir pour les Parisiens qui ont été véritablement écœurants face à ces Lyonnais. Et surtout grâce donc à un quadruplé, le premier de sa jeune carrière de Kylian Mbappé qui a véritablement humilié les Lyonnais et Anthony Lopez en seulement 13 minutes. L'ouverture du score avait été l'œuvre sur pénalty de Neymar dès la 9e minute, mais on a presque oublié déjà ce but tant la classe et la déferlante de Kylian Mbappé ont éclaboussé l'équipe parisienne en seconde période. 61e minute, Mbappé double la mise sur une frappe qui rentre dans les filets d'Anthony Lopez grâce aux deux poteaux. 5 minutes plus tard, Mbappé marque à nouveau, cette fois sur une passe décisive de Marquinhos. 3 minutes plus tard, il continue d'écœurer le jeune parisien Anthony Lopez grâce à une passe décisive de Neymar. Et puis le clou du spectacle, le final à la 74e minute, Mbappé qui profite d'un ballon qui lui revient dans les pieds pour mettre la touche finale à cette victoire des Parisiens. 5-0, c'est certainement l'une des victoires les plus larges du Paris Saint-Germain face à Lyon, et ça sanctionne véritablement une toute puissance, une surdomination des Parisiens dans ce championnat.
Et pourtant Christophe, c'était un tout autre match en première période.
Oui, c'est un match nerveux, âpre, pas très plaisant à voir durant cette première période, avec donc ce but marqué par Neymar dès la 9e minute. Mais juste auparavant, il y avait déjà eu un premier coup dur pour les Lyonnais, la sortie du capitaine Nabil Fekir qui a été touché à la cheville après un tacle de Thiago Silva. Un match où il y a eu beaucoup d'accrochages et du coup, eh bien, ça a donné un match extrêmement nerveux et qui était donc du coup sanctionné de part et d'autre par et Lyonnais par d'une part l'expulsion de Prenel Kimpembe à la 35e minute. Les Lyonnais pensaient pouvoir s'en tirer à bon compte en profitant de la supériorité numérique, mais ça n'a pas duré très longtemps puisque dans le temps additionnel à la 46e minute de jeu, eh bien Lucas Touzard qui lui aussi avait écopé d'un premier carton jaune à la 26e minute pour une faute sur Verratti a écopé d'un deuxième avertissement après avoir crocheté Kylian Mbappé qui partait à nouveau en contre-attaque. Les deux équipes donc réduites à 10 au cours de la fin de cette première période, mais on l'a vu au cours de seconde période, et bien ça n'a absolument pas gêné les Parisiens et qui ont donc ce soir fait un véritable triomphe devant leurs supporters. 5-0 donc pour les Parisiens, grande victoire grâce à un énorme Kylian Mbappé.
Merci Christophe Diremzian, dit le Lyonnais. Je me tourne vers Hugo Massonnier. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Il n'y avait pas que des chocs totalement déséquilibrés en Ligue 1 ce dimanche, un jour où les autres Européens étaient de sortie.
Marseille, Monaco, Rennes ou encore Bordeaux également sur les terrains. Programme alléchant, même si tout le monde n'est pas au même niveau en ce début de saison. Marseille s'est un peu rassuré après une défaite à Lille et un nul décevant à Limassol en Ligue Europa. Les joueurs de l'OM ont réagi à domicile face à Caen. Succès 2-0 grâce à Mitroglou et Thauvin. Déjà 7 buts en Ligue 1 pour Thauvin. Marseille 3e, mais surtout Marseille qui a gardé sa cage inviolée après avoir concédé au moins 2 buts par match lors de ses 5 précédentes sorties. Et c'est forcément une satisfaction pour le gardien de but, Steve Mandanda.
On avait besoin de gagner, on avait besoin de ne pas prendre de but aussi. Dans des situations comme ça, c'est important d'être solide. Et la première consigne, c'était d'avoir un maximum de possession de balle, de les faire courir. Et puis on savait qu'à un moment donné, on allait avoir l'ouverture. Après, c'est sûr que quand on ne prend pas de but, c'est plus facile de gagner les matchs.
Bon week-end pour Marseille. En revanche, les affaires de Monaco ne s'arrangent pas.
L'ASM en plein cauchemar. Le club de la Principauté, vice-champion de France en titre, mais aujourd'hui 18e du classement. Nouvelle défaite à domicile ce dimanche face à un autre club malade, Rennes 2-1. La faute notamment à une inspiration d'Atem Ben Arfa, buteur décisif en fin de partie sur Le Rocher. Il va falloir redoubler d'efforts pour éviter de couler.
Rennes enfonce Monaco et Bordeaux de son côté, enfonce Nantes.
Oui, les Girondins s'imposent à la maison 3-0 grâce notamment un doublé de François Camano. Cette réalisation également au compteur pour l'international guinéen. De leur côté, les Nantais vont mal. Avant-dernier du classement, ils ne bénéficient pas encore de l'effet coach Vahid. Le Bosnien Aljozic, ancienne gloire du club, ancien sélectionneur, on s'en souvient, de l'Algérie, n'a pas réussi ses débuts sur le banc nantais. Et fidèle à sa réputation, il a assuré l'ambiance en conférence de presse d'après-match.
On était dominés sur le plan, et physiquement et tactiquement. Individuellement, collectivement, constat est un petit peu terrible. Il faut que tout le monde est conscient. Il nous reste un travail vraiment énorme, énorme, énorme. Et ça sera très, très compliqué. Physique, tactique, mental, technique, tout. Je suis un petit peu triste pour le football comme Nantes qui se trouve à cette position. Mais c'est réalité. Je connais ce challenge, c'est pas la première fois. Si d'autres clubs me proposaient ça, je ne viendrais jamais. Mais pour le football club de Nantes, je ne peux pas refuser en ce moment.
Ça fait froid dans le dos, mais c'est honnête, c'est du Vahid, l'entraîneur de Nantes, 19e de Ligue 1. Nantes avec comme Monaco 4 points de retard sur le 17e et premier non barragiste, Reims.
Merci Hugo Moissonnet, c'était un plaisir de réentendre Vahid Halilhodžić. Sur le papier, Liverpool-Manchester City, c'était l'autre match du jour, voire le match du jour, en Angleterre en tout cas, voire même en Europe, le leader de la Première Ligue en déplacement chez son dauphin, avec 4 des meilleurs joueurs africains actuels, Mo Salah, Sadio Mané, Naby Keita et Riyad Mahrez sur la pelouse d'Anfield Road. Sur le papier, Liverpool-Manchester City, c'était donc vraiment le grand match à suivre. Tom Williams, bonsoir.
Bonsoir.
Ce match, vous l'avez suivi pour RFI, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce face-à-face entre les Reds de Jürgen Klopp et les Citizens de Pep Guardiola n'a pas vraiment tenu ses promesses.
Non, pas vraiment. C'était le premier choc entre les deux favoris pour le titre en Angleterre et c'était vraiment pas ce qu'on attendait. Les 4 matchs entre ces deux équipes la saison dernière ont produit 18 buts. On a eu aucune but aujourd'hui, on a eu un 0-0 assez triste. Avec penalty en fin de match pour City que Riyad Mahrez n'a pas pu marquer. Donc, pas ce qu'on attendait. Je crois que ce que ça a montré, c'est que c'était deux équipes qui ont un peu peur de s'exposer au contre de leurs adversaires.
Et une question que se posent beaucoup de gens ce soir, Tom, après l'analyse de ce match, pourquoi Riyad Mahrez a-t-il tiré le penalty qui aurait pu donner la victoire à son club? Les statistiques ne parlaient pas pour lui, hein.
Non, vraiment pas. D'habitude, c'est Sergio Aguero qui tire les pénalties pour City. Lui, il était sur le banc. Il a été remplacé quelques minutes avant. C'est Gabriel Jesus, son remplaçant, qui a voulu tirer le pénalty. Mais finalement, c'est Mahrez qu'il a eu. Et oui, il a raté 5 des 12 pénalties qu'il a tirés en Première Ligue. Donc, je pense pas qu'on va le voir tirer le prochain.
Et du côté des Reds, déception également pour les joueurs africains. Sadio Mané et Mo Salah, on ne les a pas beaucoup vus. Et c'est pas la première fois cette saison, hein.
Non, et ça devient un peu troublant. Ça fait 7 matchs sans but pour Sadio Mané, qui a commencé la saison avec 4 buts dans ses 4 premiers matchs, et un but en 8 matchs pour Mo Salah. Salah, il a eu une occasion en deuxième mi-temps qu'il n'a pas pu cadrer, et Mané, on n'en a presque pas vu. Donc un peu inquiétant pour les deux stars des Reds.
À l'arrivée, du coup, ça se resserre, Tom, en tête du championnat anglais avec 3 clubs à 20 points, City, Liverpool et Chelsea, qui s'est intercalé en gagnant à Southampton avec un 7e but d'Eden Hazard.
Oui, Eden Hazard qui est l'homme en forme du moment en Première Ligue, 7 buts en Première Ligue 8, toutes compétitions confondues, et une passe décisive aussi aujourd'hui pour Alvaro Morata. Et ça laisse Chelsea au même numéro de points avec City et avec Liverpool, donc très serré. Et derrière, il y a Arsenal et Tottenham à 2 points des 3 premiers. Donc ça annonce vraiment excitant cette saison.
Une saison excitante et un club qui est en forme avec un entraîneur Unai Emery qui n'avait pas réussi à faire au Paris Saint-Germain, ce qu'il est peut-être en train de faire avec Arsenal, qui a cartonné à Fulham avec des doublés, de Lacazette et d'Aubameyang.
Oui, Pierre-Emerick Aubameyang, il a commencé le match sur le banc, et puis il est entré, il a marqué 2 fois, il a donné une passe décisive à Aaron Ramsey, qui a marqué un vrai bijou, un petit talonnade, après une action d'un bout du terrain à l'autre. Les supporters d'Arsenal, ils étaient vraiment contents. Ils ont même chanté « We've got our Arsenal back ». Donc, ça veut dire « Nous avons retrouvé notre Arsenal ». Donc ça montre qu'ils sont contents avec le travail que Unai Emery est en train de faire.
Un mot enfin de Manchester United, où José Mourinho a sauvé sa tête peut-être en renversant une situation très difficile contre Newcastle.
Oui, on a lu dans les journaux ici le matin du match, enfin dans un des journaux ici, que ça allait être le dernier match de Mourinho à la tête du United, même en cas de victoire. Ils ont été menés 2-0 au bout de 10 minutes contre Newcastle, mais finalement ils ont renversé la situation en deuxième mi-temps, surtout grâce à un très bon Paul Pogba et un très bon Anthony Martial qui a marqué le deuxième but, et puis un but de Alexis Sanchez tout en fin de match. Donc pour l'instant Mourinho il reste en poste, et United ils ont trouvé un peu de souffle.
Tom Williams, allons, merci Tom, et rendez-vous très prochainement pour parler de Première Ligue sur RFI.
Merci.
On file en Espagne maintenant, et plus précisément à Madrid, où l'on a l'habitude de suivre de près l'attribution du Ballon d'Or. Seulement voilà, depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin, ce n'est plus le Portugais du Real qui focalise l'attention des Madrilènes, mais le Français de l'Atlético, Antoine Griezmann, un grisou qui vient de s'offrir un doublé pour la victoire de l'Atlético en Ligue des Champions face au Club Bruges. Oublié pour le prix FIFA du meilleur joueur de l'année, le champion du monde 2018 est un candidat déclaré au Ballon d'Or, qui sera remis en décembre. Il est d'ailleurs entré en campagne alors que les votes démarrent mardi, mais s'il est un endroit où il n'a nul besoin de convaincre, c'est bien du côté de l'Atlético, comme Pierre Chaperon l'a constaté.
Le temps s'est rafraîchi sur la capitale espagnole. Après un été ensoleillé, Antoine Griezmann est entré dans une autre phase, convaincre. Convaincre les grands électeurs du Ballon d'Or qu'il est l'élu. Pour Javier, la trentaine, maillot du numéro 7 de l'Atlético, cela ne fait aucun doute, le Français ne peut pas faire mieux que cette année.
Je crois que c'est le joueur qui a réalisé la meilleure année avec ce qu'il a gagné, on ne peut pas faire mieux. L'Atlético a fait évoluer le joueur et Griezmann s'est amélioré avec le club. Il pourrait marquer plus de buts, ça serait la seule chose qu'il pourrait faire en plus. Oui, clairement, sûrement, le Ballon d'Or, ça serait une fierté qu'un joueur de l'Atlético le remporte.
Jamais dans l'histoire, le Ballon d'Or n'a été attribué à un joueur de l'Atlético de Madrid. Seulement des Accessi. Le Portugais Paulo Futre, deuxième en 1987, et Antoine Griezmann, troisième en 2016. Mais cette fois-ci avec trois titres, dont celui le plus important de champion du monde, le Petit Prince, son surnom ici, Petit Croire. En tout cas, son entraîneur Diego Simeone est convaincu.
La saison dernière, Griezmann a été pour moi, et je le répète encore une fois, le meilleur footballeur du monde, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, une chose qui n'arrive pas à beaucoup de joueurs, et puis il a gagné la Ligue Europa et la Super Coupe d'Europe. Il a terminé deuxième d'un championnat où jouent le Real Madrid et Barcelone. Et puis il a débuté de bonne manière cette saison. Il est dans le club où il voulait être. Il a choisi de rester à l'Atlético de Madrid, et on voit les conséquences pour ses coéquipiers, pour l'équipe, le club et pour lui-même. Il est en train de profiter de l'un des meilleurs moments de sa carrière.
Des louanges qui, bien sûr, inspirent Griezmann. Bien évidemment, le Français rêve de ce titre honorifique. Bien entendu, il fera tout pour convaincre, même s'il ne souhaite pas non plus modifier son jeu pour l'obtenir.
C'est pas moi qui vote, mais j'ai fait une grosse saison. Je suis très heureux et fier de ma saison. Voilà, il reste encore quelques mois, donc bien la terminer, et après on verra. Je suis pas le joueur qui va tout faire pour se montrer, sinon faire les choses pour le collectif, mais je vais pas chercher à tirer dans tous les sens pour marquer mon but, mais voilà, jouer pour l'équipe comme je fais d'habitude, et voilà, profiter et m'amuser sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a les sélections qui arrivent, on a envie de jouer pour la France, et voilà, on a hâte d'y être.
Des rendez-vous internationaux, l'amical France-Islande jeudi, et surtout l'important France-Allemagne, comptant pour la Ligue des Nations mardi, qui pourrait avoir une influence dans le vote. Attention tout de même pour la correspondante mexicaine de ESPN à Madrid, Paola Núñez Valbuena. Si une victoire de Griezmann serait logique au vu du palmarès du joueur, le mode de vote du trophée pourrait le désavantager.
Dans un sens, il mériterait de le gagner. Pour avoir fait un grand mondial, il a gagné la Ligue Europa. Après, c'est un vote, un journaliste pour chaque fédération. Et qu'est-ce que regardent les journalistes de l'autre côté de la planète, en dehors de l'Europe ? Et puis, il y a plus de votants en dehors de l'Europe que dedans. Les votes vont se diluer entre tous les joueurs de l'équipe de France. Ce serait l'unique joueur français qui pourrait gagner. Il le gagnerait, ouais. Et puis, il y a le souci de jouer à l'Atlético de Madrid, qui n'est pas un atout dans ce concours de popularité. C'est ce qui a fait gagner Messi et Ronaldo pendant toutes ces années.
Quoi qu'il en soit, Antoine Griezmann a jusqu'à la mi-novembre quand s'arrêteront les votes pour convaincre la route pour devenir le successeur de Zinedine Zidane, dernier Français à avoir soulevé le Ballon d'Or, semble toutefois bien compliqué et les paramètres qui vont au-delà du sportif paraissent très complexes pour l'emporter. Pierre Chaperon, Madrid RFI.
Et pour être complet sur la Liga, sachez que c'est Séville qui est leader ce soir après sa victoire 2-1 face au Celta Vigo. Barcelone a été tenu en échec à Valence, un but partout malgré un but de Lionel Messi. Le Barça est deuxième à une longueur de Séville en compagnie de l'Atlético Madrid de Griezmann, vainqueur du Betis Séville sur le score de 1-0. Au Maroc, maintenant, une semaine après sa nomination à la tête du Wydad Casablanca, René Girard dirigeait ce soir son premier match, un quart de finale de Coupe du Trône, Antoine Grenier. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Et victoire pour René Girard, 2-1 face à l'Olympique de Safi. Bon début donc pour celui qui a été appelé pour succéder à Faouzi Benzarti à la tête du WAC, champion de France 2012, un peu surprise avec Montpellier. Girard, qui fut adjoint de Roger Lemaire à la tête de l'équipe de France entre 98 et 2002, va connaître sa première expérience sur un banc africain, mais il assure savoir où il met les pieds. René Girard.
Ce qui m'y amène, c'est que j'avais envie de faire mon métier, hein, qui est celui d'entraîneur. Et puis bon, avec, je l'avoue, une aventure à l'étranger qui m'intéressait. Le Wydad a été le plus convaincant et surtout après une visite, ça a été, ouais, il se passe quelque chose, quoi. C'est un club, au Maroc qui est mythique et qui offre, alors quand on parle un petit peu de l'Afrique, du Maghreb, ou bien d'autres pays encore, bon, on a tendance un petit peu à sous-estimer la valeur d'abord de ces équipes et puis au niveau public, j'avais jamais vu ça.
Vous l'avez dit, hein, vous n'arrivez pas n'importe où. Le Wydad Casablanca, c'est juste le deuxième club finalement le plus titré d'Afrique derrière le Al Ahly égyptien. C'est vrai que du coup, vous arrivez, il y a des structures, vous ne débarquez pas n'importe où.
Non, c'est le mot, c'est un grand club, hein, avec l'ennemi juré qui est juste en face. C'est un club qui a gagné énormément de trophées, ce sont des gens qui aiment vraiment le football, c'est une institution, pour pas dire une religion, quoi. C'est, par moments, ça fait des frissons, hein. C'est quelque chose de super, donc j'ai signé 2 ans, de gagner le plus longtemps possible des trophées. On est là pour ça, c'est ceux qui nous motivent, c'est ceux qui nous donnent envie, donc tout simplement.
Vous arrivez en plus dans un pays, le Maroc, qui respire le football, qui sportive est présent sur tout un tas de fronts ces derniers mois et dans les années à venir.
Oui, je crois que c'est un pays qui a vraiment évolué, footballistiquement aussi. J'ai travaillé à la DTN pendant 10 ans. Nasser Larguette, qui est aujourd'hui DTN de la Fédé, a été quelqu'un qui a vraiment promu le football et essayé de lui lancer un élan supplémentaire. Et c'est vrai que bon, l'équipe nationale marche super bien. Il y a une qualité de joueurs et je dirais que c'est un pays, même s'il y a encore des choses à faire, qui est bien structuré, qui veut avancer et qui n'a pas peur de prendre un modèle sur des pays européens, quoi.
Vous arrivez avec votre fils, Nicolas, Gérard Bernardet, bien sûr. Ça, c'est le staff qui a l'habitude de vous accompagner ces dernières années. On sait que vous étiez déjà ensemble à Nantes. Et puis, vous aurez pour manager Noël Tosi, un encadrement 100% français.
Voilà, il faudrait rajouter Alain Audio qui s'occupe de la formation. Ça fait que nous sommes 5 petits Français au WAC, ce qui est bien, ce qui permet d'échanger, ce qui permet de travailler, d'avoir un petit peu la même vision des choses. Et il y aura un staff très, très francophone au WAC.
Et vous allez découvrir l'Afrique, c'est votre première expérience en tant qu'entraîneur sur le continent. Et alors Dieu sait si c'est un continent qui aime le foot et qui respire le foot.
Oui, découvrir, oui, même si on le connaît un petit peu. Moi, je l'ai suivi de près pour les Cannes, à l'époque où j'étais avec Roger, regarder les adversaires, tout ça, mais c'est un football qui a beaucoup évolué, Nigeria, Maroc, même l'Algérie, à la Tunisie. C'est des footballs aujourd'hui qui sont là, qui sont bien présents dans ce monde footballistique, et ça, c'est quelque chose de super, ouais, une passion qu'on retrouve pas partout, quoi.
Vous aviez envie de retrouver l'adrénaline de la compétition, ça y est, c'est là et ça fait du bien, ça faisait plus de 2 ans que vous n'aviez plus entraîné.
Ouais, c'était mon désir et puis voilà, ça se passe à Kazan. Quand on parle d'adrénaline, oui, il va y en avoir, je pense, parce que c'est un stade de plein, c'est des supporters, c'est rien de le dire, c'est vraiment fantastique.
René Girard, l'entraîneur du Wydad Casablanca, joint par Olivier Pron.
Georges Weah, lui, Antoine, semble faire à des émules. Vous connaissez bien le cas Weah. En Côte d'Ivoire, c'est Bonaventure Kalou, l'ancien joueur du PSG et de la JOCR, qui se lance lui aussi en politique.
Oui, l'Ivoirien se présente à la mairie de Vavoie, à l'ouest du pays, la ville où vit sa maman. La ville est désœuvrée, le chômage est très important, l'espérance de vie très faible. L'ancien éléphant se voit un peu comme le sauveur de sa ville grâce à ses finances et à ses contacts. Youen Gourlet l'a suivi en campagne à moins d'une semaine du scrutin et l'ambiance était au rendez-vous.
À chaque déplacement, Bonaventure Kalou est accueilli avec la même ferveur, celle de l'homme providentiel. Ce matin, les femmes d'un quartier de Vavoie ont souhaité le rencontrer. L'ancien joueur des éléphants a donc bousculé son programme pour répondre à leurs doléances. L'une d'entre elles explique les inquiétudes des femmes, ici la pollution très importante dans la ville. Sans micro ni note, Kalou répond avec calme.
Je suis passé au marché. J'ai vu un peu les conditions dans lesquelles vous êtes. Et la fièvre typhoïde, là, c'est pas autre chose. Hein. C'est la saleté, ce sont les ordures. Donc vraiment, ensemble, tout ça, ça est dans mon programme aussi. Ensemble, au moins nettoyer là, la ville, nettoyer là. Quand le marché est propre, c'est l'intérêt de tout le monde. Moi, c'est ce que je recherche. Je ne recherche pas les intérêts individuels. Et c'est ce qui nous a mis en retard ici.
Le natif de la ville est ici une superstar. Depuis une dizaine de jours, il multiplie les rendez-vous et les meetings, près de 5 par jour, pour rencontrer chaque ethnie et chaque chef de village. Le candidat à la mairie veut mettre fin aux rivalités communautaires et politiques.
Les gens ont cessé de croire aux politiciens. C'est un gros challenge, j'en suis conscient. Il y a beaucoup d'attentes.
Parmi les attentes, l'éducation, la sécurité et l'épanouissement des femmes dans une ville de 100 000 habitants qui se disent pour beaucoup abandonnées par le maire actuel.
Il n'y a pas de lumière à Vavoie, il n'y a pas de route à Vavoie. Les femmes ne sont pas épanouies à Vavoie. On les soutient pour qu'ils nous sortent de notre pauvreté à Vavoie ici.
Dans les rues, d'immenses affiches montrent le candidat sous toutes les coutures, en costume, en tenue traditionnelle ou un ballon au pied. L'ancien joueur du PSG et de la JOCR veut aussi redonner du lien grâce au sport. Un projet de centre de formation est déjà lancé. Kalou sait que son statut d'ancien pro et son passé jouent en sa faveur.
Et moi, quand j'étais footballeur, j'aimais faire la dernière passe à l'attaquant. Et c'était ça aussi mon point fort, jouer pour les autres, faire la passe aux autres. Je pense que pour être maire, il faut ces qualités-là d'altruisme.
Dans la maison de ses parents, de nombreuses photos rappellent les exploits de Bonaventure et son frère Salomon en club et en sélection. Mais Kalou veut nous montrer un portrait de son père décédé il y a 2 ans. L'instituteur à la retraite rêvait de devenir maire de sa ville.
C'est quelqu'un qui vraiment m'a toujours inspiré de par sa sagesse, de par son amour pour son prochain. Je me dis que quelque part, il m'a poussé à prendre cette décision-là que je n'envisageais même pas.
Sur la route d'un deuxième meeting, des dizaines de motos suivent le cortège. Les habitants sont euphoriques et la radio locale crache plusieurs chants à la gloire de Bona, comme on l'appelle ici. Samy encadre la campagne, il a conseillé plusieurs candidats, mais n'a jamais vu un tel engouement.
Nous, quand on faisait campagne ici, on avait fait à l'époque 300 t-shirts. Mais avec Kalou Bonaventure, on en a fait 10 000 et on en demande encore. C'est le seul candidat où les gens demandent à ce que... C'est-à-dire que les gens viennent vers le candidat pour lui demander de venir dans leur quartier et de venir leur parler.
Cet après-midi, les demandeurs viennent de Danzerville, un village reculé. Ici, les habitants vivent du bois grâce à la scierie tenue par des Libanais. Mais la pauvreté s'est accrue. Acclamé une fois de plus, Kalou rassure avec son argent, son carnet d'adresse et son ONG.
Je suis venu, c'est même pas la politique. Moi, je vois le poste de la mairie, c'est comme une ONG pour aider. Et avec l'ONG, on m'envisage de faire une école. C'est même pas envisage, on pose la première pierre, une école et un dispensaire.
Et même en cherchant bien, difficile de lui trouver un contradicteur.
Et c'est mon frère Djoula même qui est opposant, qui est candidat RHDP. Mais ce n'est pas pour le parti qu'on vote. Le maire, là, on sait que c'est quelqu'un qui est capable pour la ville de Vavoie. Mais parmi ces candidats, il n'y a pas autre candidat qui est capable que lui.
Samedi, il espère ainsi devenir le premier footballeur ivoirien élu. Il promet de venir au moins 2 fois par mois et commencer, comme disait son père, sa bonne aventure à lui.
Un reportage ambiancé de Yuen Gourlet. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, les Jeux Olympiques de la jeunesse ont débuté aujourd'hui en Argentine, à Buenos Aires. Mais c'est vers le Sénégal, Antoine, que les regards sont tournés.
Peut-être le prochain pays organisateur des JOJ. Le Comité international olympique désignera en effet demain le pays hôte des Jeux de la jeunesse 2022. Et le Sénégal, par grand favori, après l'avis favorable rendu début septembre par la commission exécutive. En général, le CIO ne va jamais à l'encontre de l'opinion de cette dernière. Pour autant, dans les rangs sénégalais, on ne crie pas victoire trop tôt. Mais Ibrahim Awad, le vice-président du Comité national olympique du Sénégal, est convaincu de la valeur du projet.
Quand le CIO a pris la décision historique à Pyeongchang en février 2018 de confier à l'Afrique l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse 2022, le Sénégal a candidaté. Nous avons travaillé à côté d'autres pays, la Tunisie, le Nigeria, le Botswana, qui étaient les pays candidats à côté du Sénégal. Nous avons beaucoup d'espoir parce que nous avons travaillé de façon très rapprochée avec l'ensemble des services qui devaient y être, au plan national, avec les équipes du CIO. Nous avons travaillé aussi à montrer que c'est une candidature de l'Afrique. C'est le drapeau de l'Afrique qui va accueillir le drapeau olympique. Et tout cela, je pense qu'a pesé sur la balance fortement.
Alors vous dites que vous avez un dossier solide, pouvez m'en dire plus? Où est-ce que vous en êtes du côté des infrastructures, le financement? On me dit que c'est un peu flou.
Vous savez que le Sénégal, depuis quelques années, a misé sur une politique forte d'infrastructure. Mais au-delà d'une politique d'infrastructure, avec un accent très très particulier sur les infrastructures sportives, beaucoup d'infrastructures. Je dois vous dire d'ailleurs que c'est dans ce cadre de ce programme qui s'appelle le Plan Sénégal Émergent qu'une nouvelle ville, Diamniadio, a été créée. Et Diamniadio concentre un certain nombre d'infrastructures, dont les infrastructures sportives de très haut standard qui viennent d'être inaugurées, d'autres qui sont en perspective, dont un stade olympique qui devrait être réalisé d'ici 2 ans. En vérité, c'est sur 3 espaces différents, mais on est dans le creuset d'une seule ville. Donc Diamniadio, qui polarise le centre, qui va polariser le village olympique en termes d'habitation, et à mi-chemin entre les différents sites, Sali Portugal pour les sports aquatiques, Diamniadio pour le village olympique et toutes les autres activités qui s'y prêtent, et Dakar, bien entendu, la ville historique où il y a beaucoup d'infrastructures, certainement qu'il va falloir réhabiliter, mais qui présente toutes les commodités pour héberger à la fois les athlètes, les officiels, les techniciens et le monde entier. En tout cas, pour dire que le Sénégal, à l'heure du rendez-vous, présente toutes les conditions pour être prêt.
Est-ce qu'il y aura des leçons à tirer de ce qu'a fait Buenos Aires pour ces Jeux 2018?
Des leçons à tirer de ce qu'a fait Buenos Aires, de ce qu'aura fait il y a quelques 4 ans en arrière la Chine. Bien entendu, il va falloir regarder ce qui se fait, ce qui a été fait, et tenir compte des spécificités africaines. Parce qu'il est évident que c'est l'Afrique, c'est d'autres réalités au plan culturel, c'est d'autres réalités au plan sociologique, c'est d'autres réalités au plan de la manière d'accueillir le monde. Donc oui, bien entendu, s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, au-delà de Buenos Aires, ce qui est fait pour Paris 2024, dans d'autres conditions, mais bâtir quelque chose qui fait l'authenticité de l'Afrique.
Il y a quand même une nouveauté pour les Jeux Olympiques ici, c'est l'inauguration en pleine ville et non dans un stade.
Alors c'est formidable et je voudrais vraiment féliciter le comité d'organisation des Jeux de Buenos Aires, féliciter le comité olympique. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est la participation, c'est la fête du peuple. Et je pense qu'ils l'ont compris et c'est formidable. Et j'espère qu'il en sera ainsi partout à partir de maintenant. En tout cas, Buenos Aires a fait une belle trouvaille. Nous allons regarder cette trouvaille, l'analyser et nous en inspirer fortement.
Ibrahim Awad, vice-président du comité olympique et sportif sénégalais, au micro de Jean-Louis Buchet. Et puis Eric, l'histoire retiendra que dès le premier jour, l'Afrique a décroché une médaille dans ces Jeux olympiques de la jeunesse 2018. Premier titre même grâce à la sud-africaine Amber Schlebusch en triathlon.
Merci Antoine Grenier. Allez, il faut rentrer à la maison maintenant, il faut retrouver les enfants. Merci également à Hélène Avril pour la réalisation de cette émission. Mondial Sport, rendez-vous samedi prochain et dimanche prochain. Bye bye. We'll be right back.